Bonjour et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui est dédié à l'allaitement. Milkshaker car en 2020, j'ai décidé qu'ici, on allait agiter les idées reçues qui font la vie dure aux mamans allaitantes. Je commence par me présenter, je suis Charlotte Bergerot-Palisco, je suis ostéopathe de formation. J'accompagne entre autres quotidiennement les mères dans leur allaitement en libérant avec mes petites mains les tensions de leur bébé qui ne téteraient pas tout à fait correctement. Je suis également formatrice en ostéopathie pédiatrique et sur le sujet spécifique des troubles de la succion des nourrissons et podcasteuse à mes heures pas si perdues. Enfin, je suis surtout la maman de deux enfants, l'un allaité une année et l'autre est en train de téter au moment où j'enregistre cette intro. Ici, tu écouteras des témoignages autour de l'allaitement, des vécus tous différents mais essentiels à recueillir pour apprendre de l'expérience des autres, pour se repérer, s'identifier parfois, déculpabiliser aussi mais surtout assurer la transmission nécessaire pour normaliser et même banaliser ce qui devrait l'être, nourrir son bébé, bambin, si on le souhaite, comme on le souhaite, et le temps que la dyade, comme on l'appelle, mère-enfant, le désire. Et ce n'est pas tout, car si l'allaitement était facile, ça se saurait. Le manque de transmission d'informations n'épargnant personne, il me semblait essentiel que ce podcast s'adresse aussi aux professionnels entourant les mères durant cette période. C'est l'intérêt des épisodes experts que vous pourrez écouter régulièrement, que vous soyez parent ou soignant, pour vous orienter face aux difficultés rencontrées. On y traite toutes sortes de problématiques liées de près ou de loin à l'allaitement, et plus encore. Un seul objectif ici, informer le plus largement possible. Et pour cela, j'ai besoin de vous. Dès qu'un épisode vous a plu, aidez-moi en le faisant voyager pour qu'il arrive dans chaque oreille qui peut en bénéficier. Via le bouche à oreille, sur les réseaux, ou encore en laissant des étoiles et commentaires sur votre plateforme d'écoute, vous n'imaginez pas à quel point c'est précieux, alors merci d'avance si vous prenez une minute pour faire vivre ce projet. Et maintenant, place à l'épisode. Ça y est, il est venu le temps de raconter l'allaitement qui démarre immédiatement dans la salle de naissance. La petite, je vous le disais, a eu besoin d'être un petit peu frictionnée, etc. Moi, je sors de l'eau, on fait la délivrance du placenta qui arrive assez vite. Mais j'ai vraiment mal au bassin. Elle n'appuyait pas au bon endroit et mon bassin s'en souvient. À ce moment-là, il s'en souvient même tant que je suis allongée sur le lit de naissance, là, qui est dans la salle nature, sur ce gros matelas. Je suis sur le dos, mais je ne peux pas poser mon bassin sur ce lit tant il est sidéré, en fait, par ce qui vient de se passer. Donc, j'ai les jambes repliées. J'appuie sur mes pieds, vous voyez, je suis un peu en mode pont, quoi. Alors, pas un pont complet, mais j'ai les fesses soulevées. Je suis pas très confortable. Je semi-pose mon bassin le temps de la délivrance du placenta, mais j'ai vraiment mal à ce moment-là. Et d'ailleurs, je n'arrête pas de le dire. Je dis, là, mon bassin, il me fait mal et tout ça. Et donc, on ne met pas tout de suite la petite sur moi. Elle est frictionnée de son côté. Je me souviens que mon conjoint s'est préparé de son côté pour faire un peu de peau à peau avec elle. Et puis, bon, finalement, le temps qu'il finisse de la frictionner, de la préparer, etc. Enfin, de la préparer. Surtout de la frictionner, puisqu'elle est arrivée sur moi, elle n'était pas du tout habillée. Bon, bah, finalement, elle arrive sur moi. Donc bon, je la regarde un peu. Moi, pour mes deux accouchements, les histoires de pur bliss n'existent pas. Je les aime pas au premier regard. Je crois que je les aime déjà pendant la grossesse. Et puis, ils arrivent. Et puis, bon, je sais pas, on vient tellement de vivre un truc étrange qu'il me faut le temps un peu pour atterrir. Donc voilà, je la regarde. Je vous disais, elle ressemble beaucoup à mon fils. Donc, c'est assez étrange au premier abord. Puis, il sent bien que mal de poser ce bassin sur le tapis. Ça marche pas. Et franchement, ça a duré une bonne heure. Malgré tout, je crois que j'essaie de la mettre au sein dans ce laps de temps-là. Même si je ne suis pas du tout confort, j'arrive quand même au bout d'un moment à trouver un peu d'apaisement et à le déposer légèrement sur le matelas. Et puis très rapidement, on va lui proposer le sein. Je crois qu'elle galère un tout petit peu à l'attraper, mais en tout cas, bon, je la pose au sein, elle finit par le choper, ça me fait pas mal. Je sais pas si elle tète bien ou si elle tète pas bien à ce moment-là, j'en sais rien. En tout cas, je me dis, elle me fait pas mal, c'est déjà ça de gagner. Quand je connais les histoires d'allaitement des gens que je peux suivre au cabinet, je me dis que c'est déjà une petite étape de passé, qu'elle va peut-être pas m'éclater les deux mamelons tout de suite. Donc très bien, et puis on va passer un bon moment comme ça, dans la salle de naissance, entre elle qui tète ou qui tète pas, qui dort un peu, moi qui me repose, qui remange un peu, parce que la faim revient. Les gens qui me connaissent dans la vie toujours savent que je mange tout le temps. Et donc voilà, je mange des tartines de guacamole, je bois ma menthe à l'eau, ça ne s'arrêtera plus.
Et qu'est-ce que je mange d'autre? Ouais, je finis les energy balls que j'avais fait avant de... Enfin, on les a pas fait en forme de bowl, mais peu importe, c'est le même principe, ça avait un mélange de noix, etc., de fruits secs et tout ça. Et voilà, je pense que c'est ça qui se passe dans cette salle d'accouchement dans laquelle on reste un bon moment, parce qu'on mettra du temps à être remonté en chambre, parce qu'il y a beaucoup de monde qui est arrivé entre-temps à la maternité, donc on se rendra compte qu'on a eu beaucoup de chance d'arriver au moment où on est arrivé et d'attraper tout de suite la salle nature. Parce qu'après, visiblement, ça a été un gros rush pour la mater. Et puis, on découvre tout doucement Roma. On surveille toujours là ces fameux saignements. Et puis, une fois que la chambre est libre, on va nous transférer. Et puis, c'est tout. On profite, c'est dur un moment. Elsa reste encore un petit moment avec nous. Et puis, je pense qu'on est remonté en chambre vers 16-17 heures, quoi. Vraiment, en fin d'après-midi, ça a pris du temps. Une fois que je suis remontée en chambre, eh bien, je bénéficie des premiers conseils de chaque personne qui passe par là. De mettez-la au sein tous les je ne sais combien, oubliez pas de la faire téter la nuit, ou laissez-la dormir, ou on ne sait pas. Bref, j'écoute pas trop, pour être honnête, puisque j'ai la chance d'être relativement assez informée sur l'allaitement. Donc je fais ma petite vie. Très rapidement, je vais quand même commencer à avoir quelques petites douleurs au mamelon. Je sens qu'elle serre la mâchoire, et que voilà, ça pourrait bien m'abîmer un petit peu tout ça, mais bon, pour l'instant c'est carrément supportable, la montée de lait n'est pas arrivée, j'ai encore les seins relativement souples, et donc on va passer en tout pile 48 heures à la maternité, entre le moment de l'accouchement et le moment où on s'en va, et pendant ces 48 heures là, moi je vais lui faire des petits mouvements que je sais faire de consultation d'ostéo, parce que je sens qu'elle me serre déjà le mamelon, et que ça commence à être un petit peu douloureux. Donc je travaille au niveau de son palais, je travaille au niveau de sa mâchoire pour que ce soit confortable, en tout cas au maximum pour moi. Pendant ces deux jours-là, franchement, il se passe pas grand-chose de plus, à vrai dire. Parce que, ben voilà, je lui donne à téter régulièrement. J'ai pas connu ça pour mon grand, parce qu'il y avait vraiment eu 24 heures de décalage entre le moment où il est né et le moment où on a commencé les tétés. Mais ce que je vois par contre dans ces 48 heures-là, c'est qu'elle boit vraiment déjà bien pendant les tétés, et on va pas avoir de problème de perte trop importante de poids. Moi, j'avais déjà pas mal de colostrum pendant la grossesse, comme à la première fois. Et donc, du coup, très rapidement, je vois que Roma, elle est déglutie quand elle est au sein. Et que, bon, voilà, du coup, ça m'inquiète. Je suis pas du tout inquiète. Je sais très bien que la montée de lait, elle va arriver. J'ai franchement le périnée et le bassin en chou-fleur. Toi-même, tu sais. Et je, voilà, mon bassin se souvient très bien que Roma a essayé de sortir par mon os des fesses. Donc, je ne suis pas confortable dans toutes les positions. Je sais qu'il va me falloir... une bonne consultation d'ostéo ou deux pour remédier à ça. Dans ces deux jours qui se passent à la maternité, j'ai une sage-femme qui passe à un moment, bon voilà, au milieu de tous les gens qui passent. C'était le deuxième soir où j'y étais. Et c'est là que je vais comprendre que, comme je vous l'expliquais dans les épisodes précédents, mon dossier avait été un peu brûlant pour la maternité. Donc avec cette histoire de troubles de coagulation, bon, comme dans toutes les maternités, vous allez faire un rendez-vous avec un anesthésiste, etc. Et à ce rendez-vous avec l'anesthésiste, je sens que le mec est pas confort, quoi. Il commence déjà à me dire, vous savez, ici on est à niveau 1, etc. Donc il veut me refaire faire 50 000 examens, etc. Alors que j'étais déjà retournée voir l'hématologue, donc les gens qui gèrent ces histoires de coagulation, de Louis Mourier, un hôpital de niveau 3 à côté. J'étais déjà retournée la voir, elle m'avait dit « Écoutez, vous êtes un non-sujet, pour moi c'est ok que vous accouchiez là-bas, etc. » L'anesthésiste de Nanterre, pour le coup, lui, n'était pas super confort. Bon, le rendez-vous se passe quand même, il me prescrit 50 000 tests, je revoyais la sage-femme juste après, à ce moment-là, donc elle m'en avait fait faire une partie sur place à l'hôpital, et puis elle m'avait dit « En fonction des résultats, on avise pour le reste au prochain rendez-vous. » Et au rendez-vous suivant, je viens, et puis « Très bien, madame, parfait, on vous garde ici, c'est tout bon, ça a été validé. » Et entre ce dernier rendez-vous et la date d'accouchement, me demandez pas comment, mais il y a une histoire, c'est repassé en staff, ou je sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, l'anesthésiste de Nanterre a demandé l'avis, ou demandé tardivement l'avis de l'hôpital Mourier en direct, et là-bas, à Mourier, ils ont dit « Madame, on la récupère ». Sauf que moi, on m'avait déjà validé mon truc, j'étais, je pense, je sais pas, une semaine et demie d'accoucher ou un truc comme ça. Et bon, finalement, Nanterre s'est un peu battu et ils ont réussi à me garder. Mais ça a été un sujet, en fait, mon dossier. Et donc, du coup, quand j'arrive, vous voyez, à l'accouchement, et que, en fait, je suis un peu connue dans le service comme le dossier brûlant de la fille qui a un trouble de coagulation et qu'il faut quand même faire un peu gaffe parce que Maurier voulait la récupérer, j'ai l'impression. Donc cette sage-femme que je vois arriver dans ma chambre, me dit « Ah, bah, Madame Palisco, je suis contente de vous voir. » Je ne la connaissais pas, moi. Enfin, c'était la première fois que je la voyais de ma vie. « Je suis contente de vous voir quand même. Après tout ce qui s'est passé, vraiment, je suis désolée de ce qui s'est passé. » J'étais là « Bah, je comprends pas ce que vous racontez. Expliquez-moi. » Bah, vous savez, votre dossier, enfin voilà, ils ont voulu, enfin, le fait qu'à Moyer, ils aient voulu vous récupérer, etc. Mais nous, on vous avait déjà dit oui, donc on s'est battu. Enfin, voilà, il y en a marre de considérer les femmes enceintes comme des bombes à retardement, etc. J'ai dit, écoutez, je suis pas au courant du tout de ce que vous racontez, donc je ne l'ai pas ressenti. Merci, bah, parce que moi, j'en ai pas eu vent, en fait. Mais quand j'y repense, c'est vrai qu'il y a quand même eu une certaine agitation. Pendant l'accouchement, au moment où j'ai pas ma perf, et après, au moment de la délivrance, est-ce qu'elle saigne pas trop, etc. Où plusieurs fois revient le « avec vos antécédents ceci, avec vos antécédents cela ». Et voilà. Et quand j'y repense a posteriori, après le passage de cette sage-femme-là, je me dis qu'en effet, en fait, je les ai fait un peu flipper. Donc voilà, ça c'était l'anecdote pour dire que ben voilà, ce dossier et cette histoire de trouble de coagulation avait quand même été un sujet, et puis que finalement tout s'est très bien passé. Mais donc cette sage-femme qui débarquait dans ma chambre, c'était quand même rigolo, parce que finalement j'apprenais un truc a posteriori, et puis c'est très bien que je l'apprenne a posteriori, parce que si j'avais su qu'il y avait eu un sujet, est-ce que j'aurais gardé voilà, la confiance pour accoucher à cet endroit-là, etc. Et ben je sais pas. Donc du coup, j'étais bien contente de l'apprendre après coup. Et puis ce qui est super dans ces deux premiers jours là, après l'accouchement, c'est que, et d'ailleurs ça ne met pas 48 heures du tout à arriver, c'est qu'immédiatement, une fois que j'ai accouché et que la progestérone, les hormones de grossesse s'en vont de mon corps, eh bien je reviens littéralement à moi-même, je redeviens quelqu'un de fréquentable, je n'ai plus de nausées, je ne vomis plus, je ne suis pas obligée de manger toutes les 3 secondes pour m'enlever le goût atroce que j'ai dans la bouche. Bref, je retrouve une vie normale, et même en termes de morale, c'est instantané. Vraiment, j'ai pas d'autres mots parce que c'est difficile à décrire que de dire que c'est comme si d'un coup je venais me retrouver en entier. Et ça fait un bien, mais vous ne pouvez pas imaginer. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais vécu sensiblement la même chose de façon moins importante avec mon grand. Parce que je me souviens, après l'accouchement, d'être quasi euphorique. Enfin, voilà, d'être dans un état un peu second. Mais c'est que ça fait tellement de bien que ça s'arrête, pour moi, cette grossesse, que bah voilà, ça me l'a fait les deux fois. Cette façon de revivre, vraiment, instantanément. Alors que c'est quand même pas normalement la période de vie en postpartum immédiat où on est les plus vaillantes, il y a le baby blues après qui arrive, etc. Moi, je connais pas ça, en fait. Je connais pas ça, ça me l'a fait la première fois, d'aller beaucoup mieux et de pas du tout ressentir de baby blues, de pas ressentir cette chute hormonale après. Moi, la chute hormonale, en fait, elle me remet juste à un niveau correct pour que j'aille normalement. Et cette deuxième fois, ça avait été tellement intense pendant la grossesse, et ben c'est vrai que là, la marge d'escalier a été tellement énorme que c'était flagrant, et ça m'a permis de me rendre compte que c'était arrivé aussi la première fois. Donc bah écoutez, c'est cool, hein, au bout de 48 heures, je pars de la maternité, on fait une sortie anticipée avec visite prévue de la sage-femme à la maison le lendemain pour vérifier le poids de Roma, pour me checker moi, et retour à la maison au bout de 48 heures. J'avais qu'une envie, c'était de rentrer. De toute façon, j'ai pas particulièrement envie de rentrer à la maternité. J'ai envie de retrouver mon grand et puis de trouver mon espace à la maison. Et puis Roma va bien, je vous dis, elle a pas tellement perdu de poids, donc en fait personne n'est inquiet. À la mater, en vérité, comme moi je vais bien et qu'on n'est pas inquiétantes toutes les deux, bon, voilà, ils vérifient juste encore une fois mes saignements et puis c'est bouclé. Les sages-femmes passent, elles voient que Roma déglutit déjà un petit peu au sein, que son poids il est bon, donc il n'y a finalement pas grand monde qui passe me voir, quoi. J'ai vraiment les visites imposées, mais je demande pas grand chose. Je fais ma petite vie, mon mec il me ramène à manger, je mange ce que j'avais pas le droit de manger pendant la grossesse, les rares trucs que je ne mangeais pas pendant la grossesse, parce que j'avoue que cette fois-ci j'ai pas du tout été regardante, très peu sur ce que je mangeais, j'avais un peu lâché la rampe, hein, parce que j'étais tellement mal, et la bouffe c'est un sujet tellement important pour moi dans la vie, que je pouvais pas m'imposer en plus toutes les restrictions qu'on recommande aux femmes enceintes actuellement. Je l'avais fait pour ma première grossesse, enfin pour Andrea. J'avais l'impression que c'était même ça qui me déprimait à l'époque. Et là, je me suis dit, je peux pas me rajouter ça. Ça va déjà tellement pas. Si j'ai envie de bouffer du saucisson, je vais en bouffer, en fait. Ça va se passer comme ça et c'est tout. Et bon, et puis voilà, j'ai eu la chance qu'il y ait pas de soucis. Je ne recommande évidemment pas de le faire, mais moi, ça a été ma façon de tenir la tête hors de l'eau, j'en sais rien. Franchement, j'étais noyée, mais En tout cas, ça a été ma façon de tenir jusqu'à l'accouchement. De me dire que je mangeais du pâté, du saucisson et puis du saumon fumé aussi. Et puis c'était pas bien. Et puis en fait, rien à foutre parce que j'en pouvais plus. Et puis je faisais confiance à la vie pour que ce soit pas un problème pour cette grossesse-là. Mais c'est pas recommandable. En tout cas, voilà, mon mec m'amène les trucs que j'ai pas mangé, à savoir le poisson vraiment cru et ce genre de choses que j'avais quand même évité. On rentre à la maison et puis on va pouvoir se découvrir toutes les deux, rentrer à la maison et arriver à la fameuse montée de lait qui n'est pas arrivée clairement à la maternité. Mes seins commencent sérieusement à se tendre, mais j'ai pas encore fait ma montée de lait quand je suis à la maternité. Elle va arriver dans les deux jours qui suivent. Et finalement, les problèmes arrivent un peu quand cette fameuse montée de lait arrive, une fois rentrée à la maison, parce que comme les deux premières fois, parce qu'à la suite de la première grossesse, j'avais aussi fait une belle montée de lait, je l'ai fait vraiment de façon très importante, très douloureuse. Les seins sont hyper tendus, et là pour le coup, mes seins hyper tendus, cumulés à la succion de cette louloute qui serre un peu, et là j'ai un peu mal. J'ai un peu mal, je trouve qu'elle tète pas vraiment très mal, c'est vraiment une question d'un peu de serrage. Mais ça, sur un sein qui est tendu comme une brique, franchement, je le vis pas très bien. J'ai pas de crevasse, j'ai le bout du mamelon un tout petit peu brûlé de chaque côté. Et je me dis que le temps que la montée de lait passe et de me faire une idée plus correcte de ce qui se passe, je vais mettre des bouts de sein. Je l'avais fait pour mon premier allaitement, parce que pour le coup, il avait du mal à attraper le sein. Parce que lui, il serrait pas et il faisait plutôt l'inverse et il avait du mal à attraper à l'époque. Elle arrivait à attraper, mais elle me faisait un peu mal. Donc du coup, je me dis, je vais juste mettre les bouts de sein que j'avais pour Andrea à l'époque pour passer le cap de la montée de lait, parce que sinon ça va être trop douloureux et j'ai peur qu'elle m'abîme vraiment le sein. Et la nuit de la montée de lait, ce sera le lundi soir, donc après l'accouchement du vendredi. Et là, franchement, souffrance, quoi. J'avais les seins qui picotaient, mais tellement. Je me souviens d'un moment où j'étais allongée dans mon lit, que j'essayais d'aller dormir et ça me picotait, mais j'avais l'impression que ça remontait jusqu'à mon cou. Mes seins remontaient jusqu'à mes clavicules. J'avais deux énormes briques, mais plus gros que des briques. J'arrivais pas à dormir et la petite, elle était hystéro parce qu'elle voulait absolument téter. Et moi, elle me faisait mal quand elle tétait sur ça, donc j'avais pas envie qu'elle tète. Et on était sur un mood pas cool du tout. J'ai pris un anti-inflammatoire parce que je me suis dit que ça allait me soulager, ça a fonctionné. Et puis on a passé la nuit comme ça. C'était pas la meilleure nuit de l'histoire, loin de là. Mais ça, les bouts de sein, on s'en est sortis. Je savais que comme la première fois, l'enjeu, ce serait de réguler le plus rapidement, entre guillemets, possible cet afflux de lait important. Parce qu'il faut que mes seins se détendent pour qu'elle puisse téter correctement. Et que, pour qu'elle puisse s'accrocher facilement et que je me fasse une idée de la façon dont elle tète vraiment. Est-ce que ça reste douloureux? Est-ce que ça reste pas douloureux? Et montée de lait, phase pas cool. Je le savais déjà les deux premières fois, donc je m'y attendais. Je savais aussi que ça allait passer. Je trouve que c'est vrai que ces trucs-là, quand on sait que ça va passer, qu'on s'affole pas, on sait que c'est un mauvais moment et puis que ça va aller mieux. Les jours qui suivent, je déborde de partout. Comme les autres fois, comme la première fois surtout, elle tète sur un sein, c'est 100 000 litres qui coulent de l'autre côté. J'ai pris un recueil-lait, type, moi j'avais un Nature Bond, mais type AK, c'est la même chose, que j'ai arrêté petit à petit au profit de l'ange que je mettais pour contenir le flux. Mais c'est vraiment, elle tète d'un côté et il y a un biberon entier que je pourrais remplir qui coule de l'autre sans rien faire. Deux fois par jour. Je suis trempée, la nuit je vous en parle pas, une nuit sur deux je suis obligée de me changer parce que le coussinet est mal mis, machin, etc. En fait, je peux pas allaiter dans un premier temps, vous voyez, dans mon lit, tranquille, allongée sur le côté, etc. La montée de lait, elle est tellement impressionnante et les quantités de lait tellement impressionnantes dans un démarrage que je me lève, je vais dans mon canapé, j'ai un espèce de chariot à côté de moi, de dessert, la Ikea, dans laquelle il y a des coussinets d'allaitement à foison, le Nature Bond. Pour le coup, les bouts de sein, parce que dans cette phase-là, je mets les bouts de sein au moins au début de la tétée, le temps que le sein il se détende. J'ai la crème pour les mamelons au cas où, des sopalins, des machins, j'ai ma vie dans ce, dans ce chariot. Et je m'installe sur mon canapé et je la mets au sein d'un côté, je mets le recueil-lait de l'autre. Je suis obligée de vider le recueil-lait au milieu de la tétée, parce que sinon il est trop lourd, il se déventouse et tout. Enfin, bref, une fois il s'est déventousé, c'est parti partout sur le canapé. Le canapé, il est tout neuf, puisqu'on a déménagé 2 mois avant, souvenez-vous. Donc, bon, du coup, j'ai même après mis un linge et une serviette sur le canapé à l'endroit où je m'installe, histoire que si le recueil-lait se barre, il n'y a pas de souci, c'est colmaté en bas. Je suis trempée, je me change en permanence, les soutifs, les coussinets, tout ça, j'en fais des machines et des machines. Il y a 2 machines par jour qui tournent quasiment entre ça, la petite qui fait un caca, qui déborde, qui fait pipi. Bon, ça n'arrête pas. Et bon, ça c'est la partie pas très très cool. J'ai hâte que ça se stabilise. Mais encore une fois, cette fois-ci, je sais ce qui se passe. Je sais que je dois limiter les stimulations, qu'il faut juste qu'elle, elle tète en fonction de son besoin et qu'à un moment, ça va se réguler. J'évite de vider de trop sous la douche, juste je me soulage avec l'eau chaude quand c'est trop tendu. Je ne vide pas mon sein comme je le faisais la première fois, ce qui avait vachement entretenu une grosse lactation. Je fais pas de tire-lait, je fais pas de coque de recueil parce que je sais que ça stimule un peu aussi. Et même le Nature Bond qu'au début j'ai beaucoup utilisé, au bout d'un moment j'ai arrêté parce que je sentais que moi ça me stimulait trop le sein, parce que le fait de ventouser faisait quand même que j'avais l'impression de recueillir plus que si justement bah, je mettais un coussinet d'allaitement. Le problème, c'est que le coussinet d'allaitement, c'était pas suffisant. Donc au démarrage, je faisais ça. Et quand j'ai vu que les quantités, elles diminuaient un peu, eh ben, je suis passée au linge que je pliais en 10, là, dans tous les sens, et que je calais dans mon soutif pour absorber le flux sans pour autant trop stimuler. Et je patiente, j'attends que ça se mette au diapason de ses besoins. Et ça va prendre un petit peu de temps, je me souviens pas exactement, parce que là je vous raconte ça, on est début février et j'ai plus exactement les souvenirs de tout. Et puis dans le moment, bah, j'étais dans le rush, j'avais pas mon micro à côté de moi et je notais pas tout sur le moment. Donc en tout cas, on en est là. Le début, bah, c'est le débordement, quoi. Côté douleur, donc je fais attention à bien la positionner. Nous, ce qui marchait le mieux, c'était vraiment les positions type BN. Elle, au-dessus de moi, elle était quasiment, elle était en grenouille sur moi devant. Je la force à bien ouvrir la bouche, je fais attention à lui proposer le sein au-dessus, etc. Voilà, tout ce que je connais déjà et qui m'a vachement aidée pour démarrer cet allaitement. Je lui avais fait une petite consultation à la maternité. J'avais regardé un petit peu dans sa bouche pour lui libérer le palais, etc., ce qui pouvait la gêner pour téter. Et puis, en dehors des tétés, je mets les coquillages d'allaitement. Et en gros, ça suffit. J'ai mis 1 ou 2 fois de la crème. Vous voyez, le tube de crème, je l'ai encore. J'ai dû en mettre 3-4 fois et c'est tout. Je mets les coquillages d'allaitement avec le lait, le colostrum, et ça suffit à ce que ça prenne pas de mauvais chemin. Donc je me dis, bon, bah très bien, c'est pas cata, etc. Et puis j'attends encore une fois que ça se régule côté lactation et côté tension des seins pour qu'on soit tranquille. J'ai pas de crevasse, encore une fois. Mais ce qui va me rester, c'est une sensation de petite brûlure. Et ça va pas passer dans les jours qui suivent et quand petit à petit ça se régule. Et je sais, puisque bah, voilà, c'est ma formation, qu'il y a quand même un petit frein qui a l'air restrictif au fond de sa langue. Je l'avais repéré de suite. Son mouvement de langue, il est bon, mais voilà, elle serre et j'ai l'impression que j'ai beau détendre tout ça. Ma collègue vient lui faire une séance aussi. Voilà, elle se remet à serrer pas longtemps après. Donc j'attends que ça se régule bien de mon côté. Comme ça, j'ai une info plus juste de sa façon de téter une fois que le sein il est un minimum détendu. C'était mieux, mais c'était pas parfait. Donc à 3 semaines, finalement, après une petite préparation, elle va faire une phrénectomie au ciseau. Voilà, je décide de la faire faire au ciseau. Je suis allée faire ça au centre d'allaitement de Véronique Darmanja, qui est une des consultantes que vous connaissez parce qu'elle est intervenue dans le podcast à 2 reprises. Et puis depuis, voilà, en couplant ça aux séances de thérapie manuelle, après ça, ça a été... je lui ai fait faire quelques exercices aussi, mais je me suis pas acharnée à en faire énormément, pour être honnête. Les enfants cordonniers sont les plus mal chaussés. Mais je sais aussi qu'elle a pas un mauvais mouvement, elle manquait d'amplitude. C'est aujourd'hui pas encore parfait au moment où je vous en parle. Elle a pas la succion... Du top, mais en tout cas c'est suffisant pour ce qu'on a à faire avec l'allaitement, et dans un premier temps je me dis que c'est très bien. En tout cas, ça nous tranquillise toutes les deux, elle ouvre mieux la bouche, elle serre moins, ça roule, et on peut avancer comme ça dans cet allaitement. Côté rythme du bébé, évidemment c'est l'anarchie, parce qu'un coup à la fin, un coup elle fait un gros espace entre les deux. Moi, voilà, faut pas oublier qu'avec les quantités de lait que j'ai, globalement mes bébés ils crèvent pas de faim, quoi. Au démarrage, la lactation met pas de temps à s'enclencher, et ils tiennent relativement rapidement sans manger toute la journée. Parce qu'il y a beaucoup de lait, je pense que c'est pour ça, et peut-être que c'est aussi un souhait personnel, mais j'ai jamais mis en place de relation à l'allaitement rassurante, vous voyez. Je n'utilise que très peu l'allaitement et le sein comme « oh bah là ça va pas, là t'as ceci, là t'as cela, bah viens je te mets au sein et ça règle tout ». Parce que moi ça règle pas tout, dans la mesure où à chaque fois qu'ils sont au sein, ils se prennent un geyser dans la tronche en quantité et que du coup, c'est plus ou moins rassurant. Enfin, si vous avez juste envie de dormir, par exemple, que vous êtes un bébé fatigué et que vous vous retrouvez sur un sein qui vous envoie 150 millilitres en l'espace de 5 minutes, je sais pas si c'est vraiment ce que vous aviez besoin. Donc, je prends vraiment l'habitude, comme j'avais fait avec mon fils, de la rassurer quand c'est nécessaire. Autrement, je porte beaucoup les enfants en porte-bébé, en écharpe, etc. Et j'ai fait un peu pareil avec elle, parce que vraiment, le sein, au moins dans un premier temps, n'est pas un truc sur lequel on peut se rassurer, parce qu'on mange tellement à chaque fois que c'est un coup à finir avec mal au ventre. donc voilà, le rythme est un peu anarchique, j'essaye de capter les moments où elle a faim. Et la nuit, une fois que je lui ai donné une tétée, là un peu tardivement le soir, sur les coups de 21h, 22h, j'ai deux réveils, quoi, toutes les peut-être 3, parfois 4 heures. Il y a des nuits où elle se sera réveillée vraiment quasiment toutes les 3 heures, mais je crois que j'ai pas une nuit où elle m'a demandé à 2 heures d'écart à manger, c'est qu'il y avait autre chose qui la gênait et qu'il fallait que je trouve. Je sais que c'est une chance d'avoir autant de lait dans les démarrages, c'est sûr que c'est tranquillisant, vous avez un bébé qui prend plus qu'il ne faut par jour. Personne ne vous embête, puisque l'allaitement, pour les professionnels de santé, tant que le bébé prend du poids plutôt, il est considéré comme un allaitement qui marche. Mais de mon côté, c'est quand même assez difficile à contrôler, quoi. Et être trempé en permanence, humide, c'est casse-pied. Voilà. Encore une fois, cette fois-ci, je sais et je prends mon mal en patience. Et puis à côté de ça, j'ai un postpartum qui est tout doux. J'ai pas de grosses douleurs. Mon bassin me fait encore mal, mais c'est complètement tolérable. J'ai pas de cicatrices. Je suis pas abîmée par l'accouchement. Et en dehors de mon sacrum, là, qu'elle a voulu traverser pour sortir, et ben ça va, quoi. Ça va bien, donc je profite de ces moments-là. Et je sais que ça va se réguler, mais j'ai une petite pensée pour les mamans pour lesquelles ça dure dans le temps, cette hyperlactation-là, ce démarrage fou, parce que vraiment, c'est pas facile et vous n'allez pas allaiter à la terrasse d'un café avec ça, en fait. Parce que vraiment, ça coule de l'autre côté, vous êtes trempé tout le temps, il faut se changer. Enfin, c'est l'allaitement, comme je disais dans l'épisode que j'avais enregistré pour raconter ma première histoire, c'est l'allaitement qui est socialement incompatible. Quand il y a quelqu'un qui arrive à la maison, vous n'avez pas envie d'avoir votre bébé d'un côté, le recueil-lait de l'autre, ça coule, machin, les deux mamelons à l'air. Enfin, moi, je sais que c'est un truc qui me dérange. Dans un premier temps, je suis un peu planquée chez moi, dans une grotte, il y a des gens qui passent me voir. Fonction des personnes que c'est, je cale mon recueil-lait si j'ai envie. Et puis sinon, je mets des langes et des langes et des langes pour éponger l'inondation. Et puis ça se passe bien, je profite à fond de ma louloute et de mon grand. Et c'est génial. Et puis je vous expliquerai aussi le rythme qu'on avait pour que moi je puisse avoir un postpartum sympa. Et ça a été une chance aussi. Et voilà, finito pour ces quelques premiers jours, premières semaines d'allaitement à la maison. J'ai quand même un cadre trop cool. Là, je me lève la nuit, je vous le disais, pour l'allaiter. Et c'est vrai que ça pourrait être inconfortable parce que faut se lever, etc. Mais bon, de toute façon, il n'y a pas le choix avec la quantité de lait. Mais j'ai quand même un cadre trop cool pour allaiter. Parce que quand je me mets dans mon canapé, dans la Méridienne, j'ai une vue Tour Eiffel. En fait, on n'est pas dans Paris, on est à l'extérieur. Mais j'ai une vue sur la Tour Eiffel trop canon. Et donc, du coup, je la vois briller. Je calcule les horaires à laquelle elle est allumée, pas allumée, etc. C'est jamais la même chose d'ailleurs, je sais pas ce qu'ils font, je sais pas ce qu'ils allent gaufer avec cette Tour Eiffel. Mais en tout cas, elle est pas allumée de la même façon tous les jours, aux mêmes heures. J'ai pas réussi à établir le rythme de ce qui se passait. Toujours est-il que je la mets au sein, je regarde la Tour Eiffel, je regarde ma fille, je regarde la Tour Eiffel, je regarde ma fille. Et je me dis, on est bien là, ouais, on est super bien. On est super bien toutes les deux. Je profite de ces moments, je sais que c'est hyper éphémère, qu'à la fois c'est très fatigant parce que c'est intense, c'est tellement récurrent les tétés à cet âge-là. Ça fait des nuits complètement tronquées ou quand vous dormez 2 heures d'affilée, c'est déjà pas mal. Mais je sais à quel point ça va pas durer longtemps. Donc oui, même les tétés où elle tète, elle fait caca, faut la changer, mince. Et puis finalement, vous lui redonnez un peu à téter parce que vous dites « Allez, est-ce qu'elle a eu assez ?» etc. Hein. Bam, elle refait caca une deuxième fois. Il faut rechanger. Et c'est possible de rester, je sais pas, une heure et demie debout, quoi, même hors soucis digestifs du bébé ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai que c'est intense, mais vraiment, ça me paraît tellement à rien par rapport aux 9 mois que je viens de me coltiner, que je le vis de façon très philosophe, en fait. Et je me dis, elle est toute petite,
Et bientôt, je trouverai déjà qu'elle est trop grande. Et je me dis, en fait, il y a juste à profiter. J'essaye de prendre des photos avec mes yeux, avec mon cerveau, vous savez, de fixer ces moments dans ma tête pour pas les oublier, parce que je sais qu'en plus, cette fois-ci, ce sera le dernier bébé, je ne recommencerai pas. Alors je me dis, Charlotte, profite. Peut-être c'est dur, mais en fait, c'est pas éternel, ce moment. Et puis tu vas bien, elle va bien. Voilà, j'ai un contexte autour de moi en postpartum où il n'y a pas de galère, quoi. On ne sait aussi jamais dans quel contexte extérieur, familial, etc., un bébé arrive. Et moi, j'ai la chance que tout aille bien, donc je profite de ça. Et de la Tour Eiffel. Et puis c'est tout, quoi. C'est tout. Je suis de nouveau heureuse, donc il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à vivre et à profiter de tout le monde autour. Et c'est super. C'est super. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Et puis, je vous raconterai la suite de l'histoire dans un autre épisode. Allez, salut. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je te le redis encore une fois, mais c'est si important. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite surtout pas à le partager, à mettre une note ou des étoiles sur les plateformes d'écoute pour m'aider à le faire connaître. Déjà, ça me booste et ça me motive à continuer de créer ces contenus. Et surtout, ça permet à de nouvelles personnes d'être informées correctement sur l'allaitement. Pour échanger ou me faire un retour sur ce que tu as entendu, rendez-vous sur Instagram @milkshakerpodcast et je te répondrai avec plaisir. Pour rechercher un épisode, cette fois, une thématique, c'est sur le site internet milkshaker.fr que ça se passe. Tu y trouveras tous les épisodes et un moteur de recherche pour t'orienter en fonction du sujet recherché. Pour me consulter, comme ostéopathe, ça se passe à Suresnes dans le 92. La prise de rendez-vous, elle se fait sur Doctolib en tapant Charlotte Bergerot-Palisco. On se quitte, comme au premier jour, avec Emma et son titre Blinded, en collaboration avec Nemen. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode, et d'ici là, n'oubliez pas, milkshakez autant que vous le voudrez, et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel. Crazy, 'cause believe